Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode que j'ai adoré enregistrer. Il s'agit d'une interview où je reçois Virgile, qui est le CEO de Figure. Figure, c'est l'incarnation même de la boîte qui est née à la croisée, à la fois des valeurs de son fondateur, que nous recevons donc aujourd'hui, et d'un problème précis qu'il a rencontré sur son marché. Figure, concrètement, c'est une entreprise qui révolutionne le monde de la RH avec une application de rémunération en temps réel qui permet donc de mettre en place une politique salariale équitable. Donc en fait, dans cet épisode, on va parler de marketing des valeurs, de comment il a orchestré ses valeurs avec également les problèmes du marché, c'est-à-dire vraiment comment il a concilié, comment ils ont concilié chez Figures cette association des valeurs et à la fois du marketing, de la stratégie et du business, on va dire, un peu plus pur et dur. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le modèle startup avec des levées de fonds plutôt qu'un modèle PME avec une boîte qui est autofinancée? Donc on va parler de toutes ces choses-là et on va aussi, bien sûr, parler des problématiques d'inégalité salariale en France et des évolutions de ces inégalités salariales, puisque bien sûr, c'est ce qui fait que toute l'équipe de Figure se lève tous les matins pour aller travailler. Donc un épisode ultra passionnant à écouter, à réécouter, à partager sans modération à tous les entrepreneurs et entrepreneuses que tu as autour de toi et qui tu penses pourrait être intéressé par cet épisode qui est vraiment très riche et cette introduction ne suffira pas à en dévoiler toute la richesse. Donc je me tais et sans plus attendre, je te laisse écouter Virgile. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Bonjour Virgile, aujourd'hui on reçoit donc le CEO de Figure. Je le prononce comme il faut, je le dis pas à l'anglaise.
On le dit à la française. Tu peux le dire à l'anglaise ou à la française, il n'y a aucun problème, les deux sont acceptés.
Ok, très bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour cette interview où on va parler évidemment de son parcours de CEO, du parcours de son entreprise. Puis on va parler de plein de choses, évidemment de rémunération, de politique salariale, de marketing des valeurs, bref, de plein de choses. Donc je vais moi me taire pour laisser place à Virgile. Merci à toi d'être là, de nous consacrer un peu de ton temps, surtout qu'il me confiait là en off qu'il part en séminaire dans quelques jours, donc il est chargé dans son emploi du temps. Donc on va être efficace dans les questions qu'on a lui posées. Virgile, merci d'être là. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, qui est ta boîte, qu'est-ce que vous proposez, ton parcours, voilà, de la manière dont tu le souhaites.
Ok, avec plaisir. Donc déjà, merci pour l'invitation à Laura et je pars en séminaire, mais j'ai quand même le temps de qu'on fasse ça bien avec le temps qu'il nous faut, sans que ce soit trop pressé et sans que ce soit trop long pour autant. Donc Virgile Arjard, moi je suis donc CEO et cofondateur de Figure, ou Figures encore une fois, tu peux le prononcer comme tu veux, que je l'ai créé au début seul il y a bientôt deux ans et demi, un tout petit peu moins de deux ans et demi, et ensuite rejoint par Bastien, mon associé et cofondateur et CTO, qui est arrivé en début 2021. Mon parcours est un peu particulier parce qu'en fait, je veux pas revenir trop loin, mais quand même, c'est important de le comprendre pour comprendre la suite de mon parcours. C'est que j'ai fait des études de maths informatiques et ensuite des études de ressources humaines. Donc, très particulier comme cursus de faire de la maths informatique, de commencer à développer, faire des ressources humaines. Un peu bizarre à l'époque parce que j'adorais l'informatique, j'adorais développer, mais je n'aimais pas trop le quotidien de ce que j'imaginais être le quotidien d'un développeur. Et je suis allé vers les ressources humaines vraiment par hasard. Puis après, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et je suis resté dans le domaine parce que j'ai fait 11 ans de ressources humaines. Donc, dans des grands groupes, 6 ans dans des groupes du CAC 40. Après, j'ai fait 3 ans chez Criteo. Donc, à l'époque, c'était 1500 jusqu'à 3000 employés, boîte tech, forte croissance, mais assez mature. Et après, j'ai fait mes deux dernières années en startup. Une startup qui s'appelle Comet, qui à l'époque venait de lever sa série A. Donc, c'était quand je commençais à leur parler, 20-25 personnes. Et je les ai rejoints pour aider à accélérer leur croissance, structurer l'équipe RH, etc. Et on va en parler un peu par la suite. Mais c'était vraiment, je les ai rejoints par culture incroyable, valeur incroyable et proposition de valeur de d'accompagner cette équipe, de les aider à structurer leur politique RH, leur culture et faire en sorte qu'elles vivent encore en grandissant. C'était assez excitant. Et chez Comet, j'ai eu un vrai problème autour de la politique de rémunération. J'ai eu un vrai problème autour de la politique de rémunération. C'est que pendant deux ans, à chaque fois que je devais faire une offre, à chaque fois qu'on avait des revenus annuels de salaire et que Je vais dire, bon, bah, quand on faisait une offre, tiens, je vais offrir 50 000 euros à un ou une product manager. Je vais dire, voilà, t'es product manager intermédiaire, je t'offre 50 000 euros. Et la personne va me dire, bah non, mais 50 000 euros, c'est bien trop bas, le marché, il est à 60. Il me dit, bah non, le marché, il n'est pas à 60, je pense qu'il est à 50. Ah bah non, moi, mon cousin dans telle boîte, il gagne 60. Donc voilà, et ben moi, je dis, ah bah moi, je pense que c'est 50 parce que j'ai parlé à tel ou tel RH. Et en fait, il n'y a pas de source de données fiable sur le marché. Et en fait, ce que ça engendrait, c'est que donc ce genre de discussion sans fin, moi j'essaie de grappiller des informations à droite à gauche auprès des RH, auprès d'autres CEO. Je demandais à mon CEO d'aller demander à ses amis combien vous payez vos data analysts, vos product managers. J'agrégeais, mais je passais un temps de fou. Donc c'était une énorme perte d'efficacité. Et deux, en fait, j'étais même pas sûr en fait. Est-ce que c'était 50 ou 60 le vrai salaire de marché pour product manager? Je sais pas. Et donc derrière, en fait, j'étais même pas sûr d'offrir un salaire équitable. Et donc je tombais tout le temps dans la négociation. Et s'il y a un truc que je sais bien en RH, c'est que dès qu'on tombe dans la négociation, dès qu'on bosse sur les problèmes de ceux qui gueulent le plus fort, on crée de l'inégalité. Et on crée de l'inéquité. Parce qu'en fait, on va privilégier les gens qui demandent le plus, les gens qui se plaignent le plus. Et il y a un truc vraiment, moi, qui m'a toujours animé en côté RH, c'est le côté, ouais, le côté équité. Et que dès qu'on tombe dans le réactif, dès qu'on tombe dans on s'occupe des gens qui crient, dès qu'on tombe de on récompense ceux qui négocient, on va pas récompenser forcément ceux qui amènent le plus de valeur, ceux qui font mieux les choses, mais ceux qui gueulent le plus fort. Et ça c'est vraiment un truc qui me dérangeait profondément, quoi, ce côté inégalitaire. Donc là, 2000, on est en 2020, et je me dis, tiens, je peux essayer de créer un truc. Déjà, je vais parler à d'autres DRH, en fait, qui, et je leur dis, mais je suis pas fou, je suis pas fou d'avoir ce problème de manque de données de salaire, de pas savoir comment calibrer ma politique salariale, de quelles sont les données de marché et tout. Ils disent, non, non, c'est un enfer et tout. Je dis, bon, et si je me lance et j'essaie de lancer cette première étude de marché sur les salaires start-up en France, est-ce que vous êtes partant? On est partant. Et donc, c'est parti, octobre 2020, c'est la première version de figure, c'est une quinzaine de boîtes qui est d'accord pour me partager leurs données anonymisées de salaire. Je les agrège et en fait, je leur vends accès à un tableur Excel, à un fichier Excel ou Google Sheet partagé. Je leur dis, en fait, je vous donne accès à ce fichier pendant un an et je le mets à jour tous les mois avec le dernier salaire que j'ai reçu de la part des nouvelles participantes. Et je fais ça en octobre 2020, ça marche bien. Novembre 2020, il y a 25 boîtes. Décembre 2020, il y en a 35. Et c'est là que je me dis, OK, trop cool, il y a un truc qui est en train de se créer. Mais un fichier Excel, c'est quand même assez limité parce que, tu vois, dès que quelqu'un va me dire, OK, dans ton fichier Excel, il y a combien gagne une responsable administrative et financière, tu vois, une RAF pour une boîte de 50 employés. Enfin, il y a RAF, mais en fait, tu mixes des boîtes de 300 employés, des boîtes de 50 employés. Donc, comment je peux filtrer les données, tu vois, c'est pas très facile à faire dans un Excel. Donc, je fais un nouvel onglet où je rajoute des données filtrées par taille d'entreprise. Et Trey, il me dit, ah non, mais est-ce que tu peux faire aussi du filtre par niveau de financement? Et donc, je rajoute un onglet dans un fichier Excel. Et au bout d'un moment, je dis, c'est pas tenable. Donc, il faudra en faire un outil, en fait. Un outil où les boîtes pourraient naviguer, accéder au salaire, etc. Et donc, c'est pour ça que Bastien, mon associé, me rejoint. On en fait un outil en 2021. Et là, 2 ans plus tard, en gros, on a un outil un peu plus complet, une base de données un peu plus complète. On n'est plus qu'en France, on n'est plus que deux, on est 40. Et on a une boîte qui aide les. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On aide 1200 entreprises aujourd'hui, bah en fait, à piloter leur politique salariale de manière efficace et de manière équitable, en s'appuyant sur les données de marché récoltées auprès de ces 2200 entreprises, et le tout ça dans un produit en ligne.
Ok, donc un sacré parcours, cette première version qui est un peu ton MVP finalement, cette espèce de
Complètement,
voilà
ouais.
de Google Sheet, tu l'avais fait payer déjà ou là à ce moment-là c'était ouais?
Non, non, on la faisait payer. D'entrée, je me suis dit, je veux que les gens soient un peu. Et ça, je me suis. Ça, c'est une. J'ai fait beaucoup d'erreurs sur le prix, sur le prix d'accès à figure. Mais la première version, je me suis dit, si les gens ne payent pas, ils vont pas le prendre à la. Ils vont le prendre à la légère.
Ouais.
Et ils vont pas me donner des bonnes idées. Parce que je suis là, je leur ai demandé, aidez-moi à calibrer vos données, qui fait quoi chez vous. Donc ça demandait du boulot. Et si quand les gens payent, ils sont engagés. Et quand ils sont engagés, ils font du meilleur travail, quoi. Et on le voit encore aujourd'hui, parce que quand on se lance dans des marchés, on offre figure gratuitement pendant 6 mois ou 12 mois. Et on voit le taux d'engagement, le taux de complétion des données, la qualité des données des boîtes qui payent est largement supérieure à celles qui ne payent pas. Et donc, dès le début, on a fait payer, pas beaucoup, peut-être pas assez, mais on a fait payer. Et ce Google Sheet, là, cette version initiale, je l'ai vendu à 45 entreprises, hein. Donc, il a 45-50 entreprises. Notre MVP, il a marché et après, on a commencé à vendre le produit.
Et alors, du coup, tu nous dis que voilà, après, du coup, ton associé rentre dans l'aventure, si je peux dire ça comme ça, parce que bah, c'est aussi du coup le CTO de la boîte, et donc il y en avait besoin à ce moment-là, du coup, quelqu'un fait la technique. C'est quoi? C'est un ami à toi où tu lui dis viens avec moi? C'est comment
Alors, en
vous
fait, c'était
vous êtes?
un collègue de mon ancienne boîte. Donc, dans mon ancienne boîte, c'était le meilleur dev de la boîte. Et en fait, il y a pas mal de gens qui espéraient pouvoir l'attirer dans sa future boîte parce que c'est vraiment, moi, c'est le meilleur développeur que j'ai jamais vu encore aujourd'hui. Et pourtant, j'ai bossé avec pas mal de développeurs, notamment chez Criteo. C'était un endroit où on en avait pas mal. C'est vraiment un développeur incroyable. Tu sais, il y a ce concept très US, très californien de 10X développeurs, de ces développeurs qui en valent 10, tu vois. Et à chaque fois, je dis à Bastien, t'en vaut peut-être pas 10, mais je pense qu'il en vaut 4 ou 5. Parce qu'à lui tout seul, et tu vois, il est arrivé en début janvier 2020, 4 janvier 2021. Et en fait, il a sorti en 3 semaines ce que je crois qu'il prendrait 3 ou 4 mois. Et quand en février, je faisais des démos produits d'un truc qui venait d'être fait un mois plus tôt, j'avais des CEO hein, de boîtes tech qui me disaient, putain, vraiment canon, t'as combien? C'est quoi la taille de ton équipe tech? C'est quoi 3-4 personnes depuis 6 mois? Et non, c'est un mec depuis un mois. Et c'est vraiment, ils hallucinaient. Et donc, tu vois là, l'impact peut avoir une seule personne et d'avoir quelqu'un comme lui, encore aujourd'hui, c'est assez incroyable.
Alors, du coup, la première question que j'avais en tête, c'était centré sur la question des valeurs, puisque du coup, tu as beaucoup parlé de la question de l'égalité et de l'équité sur ces politiques de rémunération. Donc, tu as vraiment mis, puis vous avez vraiment mis, du coup, ces valeurs-là, cette cause qui vous tenait à cœur au centre de l'activité. Comment concrètement vous avez fait pour que cette entreprise, elle tourne autour de ces valeurs d'égalité et d'équité et que vraiment concrètement l'entreprise, elle reflète ça? Parce que tu étais quand même sur un truc où on aurait pu être dans un truc purement pratico-pratique et purement comptable, j'ai envie de dire. Donc il y a quand même, je trouve, un marketing des valeurs qui est assez présent. Comment vous avez fait concrètement pour que ça se ressente et que ça se reflète?
Ouais, c'est vraiment une super question parce que, alors, bah pour ça, il faut repenser au moment où j'ai rejoint Comet, mon ancienne boîte. Et encore une fois, je te le disais tout à l'heure, c'était je l'ai rejoint vraiment en grande partie pour la culture parce qu'il y avait vraiment une culture absolument incroyable à cette époque-là. Et d'ailleurs, pendant 2 ans là-bas, enfin, pendant 1 an et demi, ma première année et demie ou 2 ans, on n'a pas eu une seule démission. Tout le monde était incroyablement heureux, tout le monde adorait cette boîte, etc. Et un de mon premier sujet, ça a été de structurer la mission de la boîte, ses valeurs, et de s'en servir pour le recrutement, pour l'évaluation des gens, etc. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait des valeurs quelque chose de défini, de clair, d'explicite, d'actionnable et d'utilisable. Donc, si tu veux, j'avais déjà fait ça chez Comet. Et tout de suite avec Bastien, alors qu'on était encore que deux, on a dit, OK, dès qu'on a compris qu'en fait la boîte allait continuer à grandir, qu'on s'est dit, OK, je pense qu'on tient quelque chose de bien, on va recruter des gens, tout de suite on s'est dit, OK, on le fait tout de suite. Tu vois, et on l'a fait sur une plage, écoute, une plage de Saint-Malo. La plage du Nice RET9 pour les connaisseurs et connaisseuses, on a fait un atelier toute l'après-midi sur c'est quoi la mission de la boîte, c'est quoi nos valeurs. Et on a fait ça, on a brainstormé toute l'après-midi et en fait on est arrivé sur cette mission qui était on veut aider les boîtes à prendre des décisions justes et efficaces en termes de politique salariale. Donc tu vois, le guide était posé et quand on sort quelque chose, quand on sort une fonctionnalité dans notre outil, on se dit OK, à quel point ça aide l'efficacité et idéalement l'équité ou au moins un des deux? À quel point on aide les boîtes à prendre des décisions plus équitables? À quel point on les aide à prendre des décisions plus efficaces? Donc d'entrée, on a arrêté cette mission. La mission de l'entreprise, c'est ça, c'est d'aider les boîtes, permettre aux boîtes de prendre des décisions justes et efficaces. Donc tu vois, on a ces deux étoiles polaires de l'équité et de l'efficacité tout de suite qui nous guident, qui guident nos choix produits, qui guident nos décisions de ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, etc. Et après, la culture, pas tout de suite. Moi, j'avais bossé là-dessus beaucoup chez Comet. On a créé 4 cultures. Et à chaque fois, on a créé 4 cultures. Ce sont 4 phrases. Et chaque fois, on a dit à quoi ça correspond, c'est quoi les comportements associés à ces cultures que l'on veut encourager, c'est quoi les comportements que l'on veut éviter. Tu vois? Et donc, on l'a fait ça tout de suite avant d'embaucher nos premiers salariés. Parce que je l'avais fait chez Comet et parce qu'on savait que c'était important d'embaucher des gens qui allaient être alignés avec cette culture-là.
Oui, alors je vois que la manière dont tu as de te représenter tout ce travail-là est très tournée sur la culture d'entreprise, les recrutements, etc. Donc je pense que tout le monde comprend assez bien la nécessité justement de pouvoir recruter des gens qui sont alignés avec les valeurs et compagnie. Ma question, pour compléter la première, c'est est-ce que tu sens que ça t'a servi dans les entreprises qui sont du coup clientes?
Bah complètement, parce qu'en fait, tu leur vends ce produit-là. Enfin, moi, ce que je leur vendais dès le début, c'est que moi, ce que je vous promets, c'est qu'en prenant figure, vous êtes plus efficace dans votre politique de rémunération. En fait, j'ai voulu créer un produit qui, pour les gens comme moi à l'époque. En fait, j'ai voulu créer le produit que j'aurais rêvé pouvoir utiliser à l'époque. Et donc, je dis, vous n'allez pas perdre de temps à chercher des données de marché sans fin, à droite, à chercher des données gratuites sur Internet, donc pas trop dignes de confiance, à demander à droite, à gauche. Cette perte de temps-là, vous n'allez pas l'avoir. Et on va vous amener plus d'égalité parce qu'on va vous donner des marchés, données de marché précises qui vont permettre de prendre des décisions égalitaires. Mais en plus, dans l'outil, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, on va analyser votre politique salariale actuelle. On va regarder s'il y a des écarts injustifiés hommes-femmes au sein de votre entreprise. C'est-à-dire qu'on va regarder à poste égal, est-ce qu'il y a des écarts hommes-femmes injustifiés. On va vous les montrer du doigt. On va analyser vos positionnements marché de vos employés. On va vous dire ceux qui sont bien payés, peut-être très bien payés par rapport au marché, ceux qui sont au contraire sont sous-payés. On va vous les mettre en avant. Parce qu'on pense qu'il y a une forme d'inégalité si vous avez des employeurs qui sont payés au top du marché sur certains de leurs rôles et d'autres qui sont moins bien payés, 95% des gens qui font le même rôle sur le marché. On va vous les mettre en avant. Mais à la fin, c'est vous qui avez la main sur votre politique salariale. Donc on vient pas vous dire qui vous devez augmenter ou pas, mais on vient vous montrer du doigt les inégalités de votre organisation. Et vous, parce qu'on pense qu'en faisant ça, on vous encourage à prendre des décisions plus justes et égalitaires. Donc, si tu veux, cette mission-là, elle se retranscrit dans comment on construit notre produit, dans comment on vend notre produit, dans comment j'explique la valeur ajoutée du produit au prospect et au client.
Ouais. Alors, je voudrais, on reviendra après sur les questions des inégalités salariales, notamment de genre, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Mais il y en a une que je comptais te poser après et elle me paraît peut-être plus pertinente de la poser maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu du cheminement de ton idée? En fait, j'ai l'impression que t'es parti du problème, puisque du coup, tu l'as vécu toi quand tu étais en gestion RH chez Comet, et que ça a mené à, ok, en fait, derrière ces problèmes, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, qui du coup sont rentre en friction, on va dire, avec le problème, ou est-ce que ça a commencé par les valeurs d'équité, d'égalité, que tu as traduit en disant concrètement, ça pose quoi comme problème au RH, quoi?
Ouais, c'est un super point. En fait, je suis parti à un problème qui existait sur le marché que j'avais et je suis parti dans pourquoi est-ce que ça m'anime de le résoudre, en fait? Qu'est-ce qui faisait que c'était un problème pour moi? Pour moi? Qu'est-ce que ça me causait et pourquoi ça m'anime de le résoudre? Pourquoi j'ai envie de bosser là-dessus? Pourquoi quand je me réveille le matin, je me dis, t'as trop envie de faire ça? Et les gens qui nous rejoignent sont drivés par ça aussi. Et certains plus par le côté efficacité. Et certains plus par le côté équité de ce qu'on essaie d'amener sur le marché. Mais en tout cas, c'est de prendre le problème, de dire, OK, ben, faire un benchmark, ça va aider à résoudre un problème. Mais en fait, c'est quand on s'est posé avec Bastien, si, en fait, qu'est-ce qu'on fait à travers ça? Qu'est-ce qui nous anime dans quand on fait ce benchmark? C'est pas de faire un tableau Excel, pas de faire un produit. Enfin, on aime bien, on est tous les deux, moi, avec mon background un peu tech, et on aime bien les produits bien faits avec des jolis boutons, des trucs. Mais on fait pas ça pour faire ça. On pourrait pas faire un produit comme on pourrait faire un produit, je sais pas, d'indexation des prix ou de calcul logistique. Non, qu'est-ce qui nous drive dessous? Et on est revenu, tu vois, tu déconstruis le truc jusqu'à dire, bah ouais, en fait, on est arrivé sur ces deux trucs qui nous impactent et qui nous unissent au niveau perso. Parce que moi, c'était des problèmes, et moi, tu vois, j'en ai parlé, le fait de perdre du temps de dingue à faire des fichiers Excel, à agréger des informations. Moi, c'est un truc qui m'insupporte. Et Bastien aussi, on a un truc, on est vachement obsédé par l'efficacité. Tu vois, souvent, on parle d'inefficacité quand on va au restaurant, on va sur un bouton d'ascenseur qui met 5 secondes de plus que ce qu'on voudrait, est-ce que les portes se retournent. Tu vois, on a un vrai truc biais perso qui nous unit sur ce manque d'efficacité et d'optimisation. Et pareil, sur ce manque d'inéquité, lui, il en a souffert. Il en a vu, tu vois, il est peut-être quelqu'un un peu plus discret, il avait des gens un peu plus grande gueule, se pouvoir de plus d'augmentation que lui par le passé. Donc, tu vois, ce côté. J'ai pas envie que les gens qui aient les plus grandes gueules soient les plus récompensés au niveau carrière et rémunération, ça le drive. Donc, tu vois, c'est le côté équité. Ben, moi aussi. Parce que moi, au niveau RH, je l'ai trop vu. Quand on est RH, on est débordé. Je te le disais tout à l'heure, on devient réactif au problème et donc pas proactif. Et donc, on récompense pas les bonnes choses. Donc, on est revenu au principe premier de qu'est-ce qui nous drive au fond. Tu vois, évidemment, j'ai fait un fichier Excel pour résoudre un problème. Et quand je me suis vu avec Bastien, je lui parle du fichier Excel, de ce qu'on pourrait faire, il l'a fait. Et en fait, quand on s'est posé, on est revenu au principe premier de, en fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Qu'est-ce qu'on essaie de patcher? Qu'est-ce qui nous anime tous les deux? Et qu'est-ce qu'on a en commun qui se retranscrit dans Figure? Et c'est ça qui a déterminé la mission.
Ouais, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et peut-être qu'on y est tous ou façon de parler ou beaucoup à y être passé à peut-être à un moment ou à un autre de la boîte, mais des fois effectivement comme tu dis, tu vas te consacrer à un problème sans te questionner de mais en fait pourquoi je me consacre à ce problème en fait. Je
Ouais.
pourrais avoir un travail tranquille et pas m'infliger tout ce stress, mais non, je veux me lever tous les matins pour résoudre ce problème. Et c'est vrai que il y a, j'imagine, pour beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui nous écoutent, peut-être une difficulté en fait à venir identifier derrière les valeurs fondamentales, puisque je crois qu'il y en a quand même beaucoup qui peuvent se retrouver, tu sais, dans une espèce de flou qui est au quotidien, je suis happée par un besoin de sécurité, par la pression financière, par le customer care, et en fait je passe mon temps, tu vois, comme tu disais, tu as raison, des RH qui font de la réaction aux plus énervés, on va dire. Ben, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font un peu de la réaction aux plus urgents, tu vois, au chiffre d'affaires, au client qui est pas content, à l'offre qu'il faut sortir, et qui du coup peut-être ont du mal à prendre ce recul de dire mais en fait pourquoi je me lève tous les matins, etc. Est-ce que, alors j'avais pas prévu de te poser la question, mais est-ce que il y a des choses qui viennent comme ça peut-être en conseil à leur donner sur comment je peux faire pour vraiment me poser et identifier ce qui est vraiment important pour moi, parce que je serais quand même beaucoup plus motivée si je suis drivée par mes valeurs que juste de réagir à de l'urgence, quoi.
Ouais, bah écoute, moi je m'étais appuyé sur une méthodologie qui t'aide à déconstruire le côté mission, vision d'une boîte, qui te fait poser des questions, etc. Et on avait fait l'exercice avec Bastien, tu vois, on avait fait l'exercice avec Bastien et on était arrivé à déconstruire ces principes, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on veut pas voir, qu'est-ce qui nous excite au contraire, qu'est-ce qu'on ne tolère pas. Et tu vois, t'as pas mal de sets de questions qui te permettent d'arriver à ça. Et ce qui nous amène, c'est trop bien dans ce que tu dis. Ce qui nous amène derrière à dire, tu vois, la première manière d'aider les boîtes à avoir des décisions plus justes et efficaces, ça a été de faire un benchmark de salaire, leur donner accès à des salaires de marché. Mais en théorie, si tu y penses, un monde plus juste, bah en fait, il n'y aurait pas besoin de ce benchmark, que ce benchmark il serait disponible pour tout le monde. Tout le monde aurait accès à quels sont les salaires du marché et aurait des décisions sur, bah tiens, regarde, sur le benchmark gratuit, méga fiable, disponible, voilà ce combien sont payés les postes. Et donc, en fait, notre business serait tué. Eh ben, tant pis, parce qu'en fait, il faudrait que nous, il y aurait d'autres manières d'aider les boîtes à prendre des décisions, tu vois, juste et efficace. On vient pas faire un benchmark, on vient aider les boîtes à prendre des décisions justes et efficaces. La meilleure manière qu'on a trouvée à l'époque, c'était de faire un benchmark, mais demain sera peut-être autre chose. Et donc, en fait, ça donne un fil conducteur, une vision. Tu vois, vraiment ce côté, ils le disent, étoile polaire où que tu vas, à tout moment, tu lèves les yeux, tu fais qu'est-ce qu'on vient faire là? Et c'est ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça t'amène à faire un outil de benchmark, demain, ça te nous amènera à faire autre chose.
Ouais, c'est très intéressant et très important, je crois, ce que tu dis sur la question finalement de l'aide aussi à la prise de décision, où ça permet de, à chaque fois qu'il y
Exactement.
a un croisement ou une urgence qui te tombe sur le coin de la tête, effectivement, de pouvoir revenir à cette étoile du berger, cette étoile polaire. Et j'entends un peu une notion de d'axe aussi, tu vois, de est-ce qu'on n'est pas en train de foutre le camp de la
Exactement.
mission, quoi.
Exactement.
Alors justement, pour revenir à la mission, je cite ce qui est écrit sur la page d'accueil du site, qui est une application qui permet de mettre en place une politique salariale équitable. Tu m'as devancé un petit peu tout à l'heure en commençant à parler des inégalités salariales liées au genre. Et c'est quelque chose dont je voulais juste
Ouais.
parler. Alors, il y a des inégalités salariales qui sont aussi pas liées au genre, hein, mais déjà sur celle-ci, est-ce que du coup, ça vous permet, j'imagine bien que tu vas me dire oui, mais ça vous permet aussi de travailler sur ces inégalités salariales, je vais y arriver, liées au genre.
Ouais, complètement. Et en fait, pour la petite histoire, quand j'ai créé ce fichier Excel, au début, je traquais pas le genre. Et pendant au bout d'un mois ou deux, je me suis dit, en fait, mais pourquoi je le fais pas? Je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants à le faire. J'ai commencé à dire aux boîtes, donnez-moi les informations de genre, on verra ce qu'on en fait demain. Après. Et en fait, au bout de quelques mois, je me suis dit, OK, ben, ça, il y a un gros sujet d'égalité homme-femme. Il s'avère que c'était mon sujet de fin d'études, l'égalité salariale. Donc, si tu veux, le sujet de l'écart salarial homme-femme, c'est un sujet que j'ai toujours suivi, depuis, tu vois, 15 ans, quoi. Et donc, j'étais pas mal porté dessus. Il y avait l'index égalité homme-femme légal qui a les mérites d'être une V1, de commencer à pousser les boîtes à être plus responsables, à se mesurer un peu, mais qui a plein d'imperfections, on n'a pas trop le temps d'en parler. Je me suis dit, OK, si nous, on veut vraiment aider les boîtes à se mesurer et à être actionnables au niveau de l'égalité salariale homme-femme, comment on fait? Et on a commencé à dire, OK, on a créé trois gros indicateurs principaux qu'on a mis dans l'outil. C'est que dès qu'une boîte arrive, nous donne ses données de salaire, on va regarder les écarts salaire homme-femme à poste égal, tu vois, dont on a parlé tout à l'heure. On va regarder la représentation des femmes au niveau des top 10% des postes les plus rémunérateurs. En gros, dans le top 10%, est-ce que t'as 50% de femmes, est-ce qu'au final, t'en as que 5% parmi les postes les plus rémunérateurs, parce qu'il y a un espèce de plafond de verre qui les empêche d'aller au poste, notamment de direction, ce qui m'amène au point d'après, représentation des femmes dans les postes de management jusqu'au poste de direction. Et en fait, on audite la boîte et on leur donne un score selon leur situation pour leur dire, voilà, vous êtes bon, voilà, vous êtes moins bon. Donc, si vous voulez vous améliorer, ça passe par là. Et donc, dans cette situation-là, enfin, tu vois, tu ne peux corriger que ce que tu peux mesurer. Donc, on arrive à leur donner ce niveau de mesure. Comme on bosse principalement avec des petites boîtes, parfois, elles n'ont pas le temps, n'ont pas les compétences, elles n'ont pas les outils pour mesurer leurs problèmes. Elles disent, moi, j'arrive à bosser dessus, mais je ne l'ai pas. Ben, ça tombe bien parce qu'en venant chez Figure pour potentiellement juste consolider des données de marché, nous, on arrive à leur dire, ben, tiens, en fait, par ailleurs, voilà un audit de ta situation. Enfin, voilà ce sur quoi tu dois bosser.
Ce qui m'intéresse aussi, c'est que bah, j'imagine par définition que des boîtes qui font déjà le taf de venir chez toi, c'est qu'elles ont du coup a priori quand même un minimum concerné par la question des égalités salariales. Donc dans ces boîtes, pour celles qui se retrouvent avec un audit où en fait elles se rendent compte que ah ouais, on a une sacrée inégalité de genre, j'imagine que ce n'est pas parce que la culture d'entreprise est profondément sexiste. Sinon, à mon avis, elle ne viendrait pas chez toi. Comment tu expliques ça? Est-ce que c'est un truc, tu sais, de sexisme qui est tellement, en fait, intériorisé qu'ils se rendent même pas compte qu'il y a des inégalités salariales? Est-ce que, voilà, plafond de verre, comme tu disais, comment toi tu interprètes ces inégalités, dans ces boîtes?
Bon, en fait, à plein de biais, hein, si on revient à l'inégalité de salaire homme-femme, je prends l'écart de salaire homme-femme qu'on aime appeler non ajusté, c'est-à-dire sans prendre en compte le poste sur lequel on parle, 19% selon notre dernière étude, ça vient de quoi? Ça vient de deux problèmes principaux qui sont la sous-représentation des femmes dans les postes les plus payés, qui sont notamment les postes dans la tech, dans la finance, et la sous-représentation des femmes, enfin la difficulté pour les femmes d'arriver à des postes de direction, l'effet plafond de verre qu'à chaque. Et nous, on le voit quand tu regardes nos données. Tu vois, tu prends le premier poste de management, on a genre 48% de femmes dans nos données, le poste de team lead, le chef d'équipe ou de premier niveau de management. Tu vas au poste de directeur, on a 30-31%. Tu vas au poste de VP, on tombe à, je sais plus, 20-20%. Tu vas au poste de C-level, de dirigeant, on est à 17%. Tu vois cette pyramide. Donc, en gros, on a ce problème-là, ce sont des problèmes sociétaux qui se reflètent dans les entreprises. Il y a plein de causes. Il y a des problèmes à la formation, de croire que, par exemple, les postes du développement, les postes de la finance, ce n'est pas des fois fait pour les femmes, alors que historiquement, c'est des postes pour les femmes. Donc ça, c'est presque des. Ah, ça, c'est presque un sujet qui est presque un sujet sociétal sur lequel les entreprises peuvent un peu agir, mais que ça vient presque dans l'éducation. Tu vois. Le plus gros du problème là-dedans, la sous-représentation des femmes dans les postes de tech, ça, c'est un problème plus d'éducation que d'entreprise. Dans les postes de direction, par contre, c'est plein de choses. C'est les congés parentaux. C'est la possibilité de l'égalité. Bah, c'est aussi sociétal dans le sens, c'est l'égalité des tâches dans les couples pour que les différents parents aient le même rapport, la même implication et donc pas qu'on se retrouve avec des femmes qui aient plus d'arrêts de carrière ou de plus de pénalités dans la carrière que nécessairement les hommes. Et dans l'entreprise, c'est des biais inconscients. Comment sont prises les décisions de promotion? Tu vois, il y a plein de biais inconscients à ce moment-là qui sont, et pas forcément beaucoup de discrimination, parfois inconsciente et beaucoup de biais inconscients. Et donc là, il y a pas mal de choses à faire dans ce sujet-là. Donc, si tu veux, il y a plein de biais sociétaux qui se retranscrivent dans les entreprises, et surtout parce que c'est, et je vais arrêter après, mais il y a une des raisons principales qui amène à de la discrimination non voulue, hein, souvent inconsciente homme-femme, et notamment au niveau des salaires, mais pas que, c'est le manque de structure. Tu vois, par exemple, quand tu recrutes, tu as tendance à recruter des gens qui te ressemblent. Or, qu'est-ce qui se passe? Ces startups, nous, on a, je sais plus ce qu'on avait dans nos données, c'est 90% de fondateurs qui sont masculins, peut-être un peu moins maintenant, je me souviens plus des dernières données qu'on avait. T'as une équipe de fondatrices de boîtes, c'est deux ou trois personnes qui sont des mecs. Ils vont recruter, principalement par défaut, ils vont avoir tendance à recruter des gens qui leur ressemblent, sont plus souvent des mecs. Et boum, tu te retrouves avec un comité de direction d'une boîte de 15-20 personnes, t'as 5 mecs. Et donc, de facto, c'est une boîte qui est moins accueillante pour les femmes, donc tu as moins de femmes, donc c'est plus dur pour les femmes de progresser dans l'entreprise. Enfin, tu vois, tu as plein de biais qui viennent de les petites startups. Quand tu es déstructuré, en fait, tu crées plein de biais au recrutement, plein de biais aux augmentations de salariales, etc., qui ont tendance à pénaliser les femmes. Et en fait, souvent, la structure, d'amener plus de structure et de process dans les entretiens de recrutement, dans les négociations annuelles, enlève ce biais inconscient. Mais souvent, les petites boîtes n'ont pas cette structure-là. Donc, tu vois pourquoi on se retrouve avec des problèmes dans les jeunes boîtes dès le début.
Et ça me fait penser aussi à ce que tu disais tout à l'heure, où tu disais que quand toi t'étais encore RH, bon voilà, tu fais un peu en réactivité à celui qui gueule le plus fort. J'imagine que là tu dois aussi avoir un biais, parce que j'imagine que quand même globalement, enfin je sais pas, tu vas me contredire, peut-être que j'ai tort, mais moi j'ai dans le préjugé que les demandes de promotion, d'augmentation, etc., de manière intrinsèque, viennent plutôt des hommes que des femmes, j'imagine. Ou c'est une fausse idée?
Énormément. Non,
Ouais.
non, non, c'est non, c'est loin d'être une fausse idée, tu vois. Parce qu'en effet, quand tu tombes sur les écarts de salaire à poste égal, une des études qui date d'il y a un an et demi, etc., montre que le facteur le plus important, c'est souvent à placer ça à la négociation. Et qu'en fait, en effet, en moyenne, les femmes négocient moins et à demande égale, elles ont tendance à moins obtenir ce qu'elles demandent. Et d'ailleurs, tu vois, on a des chiffres, un de nos partenaires, Ota.com, une plateforme de recrutement, donc plus en Angleterre, hein. Mais bon, je pense que le phénomène, s'applique un peu partout, montre qu'à poste égal, eux, ils traquent du côté candidat-candidate, ils traquent les demandes de salaire. C'est-à-dire que si je voulais avoir un poste, combien je voudrais avoir? À poste égal, des femmes demandent 10% de moins sur la plateforme. Et même quand tu ajoutes, parce qu'ils sont en Angleterre, ils peuvent suivre ces données-là, on peut pas trop en France, les femmes qui ont en plus une origine d'origine, par exemple, ethnique différente, sont à 20% en dessous des hommes. Donc, si tu veux, tu as un énorme biais. Plus tu vas être basé sur la négociation, plus tu vas récompenser les hommes de facto, à l'embauche, comme pendant les augmentations annuelles, comme pendant les promotions annuelles.
Oui, c'est une question aussi que j'allais te poser, mais bon, du coup, tu as répondu qu'on voit, j'imagine aussi d'autres discriminations, celles liées au genre, bien sûr, mais j'imagine des discriminations raciales aussi. Et j'entends un peu que finalement, quand tu commences à cumuler des facteurs d'inégalité, bah, du coup, t'es encore moins entendu, quoi.
Ouais, sachant que c'est plus dur en France, parce que ça, c'est toujours bon, un sujet clivant, mais on n'a pas le droit de collecter
Bien sûr.
certaines données qui nous permettent de le faire, alors qu'au UK, ils sont un peu plus là-dessus, ils ont un peu plus d'opportunités de suivre ces données-là pour mesurer ces écarts-là. Mais il y a fortement à penser que oui, ce soit le cas. Ouais.
Oui. Et ça me fait penser, pour revenir sur la partie un peu business, que du coup, tu dis, c'est très intéressant, qu'on a tendance à recruter ceux qui nous ressemblent. Alors, j'imagine plein de biais que ça peut mener, mais on n'aura peut-être pas le temps de tous les voir. Mais notamment, du coup, ce que ça m'évoque, c'est que là, nos auditeurs auditrices sont une majorité d'auditrices. Donc, j'ai dans l'idée qu'elles devraient avoir tendance à recruter une majorité de femmes. Si je suis...
Bah, c'est un des critères. En fait, c'est souvent des gens de la même école, des gens qui pensent comme nous, des gens qui viennent, tu vois, du même milieu social. T'as plein de biais sur ce truc-là. Et ce qui est marrant, parce que il y a un truc qui est très compliqué, c'est qu'en fait, le principal canal de recrutement est celui le plus efficace, celui où tu as le plus de facilité à trouver des gens, à les convaincre de venir et qui statistiquement sont des gens qui restent le plus dans ta boîte, c'est la cooptation. C'est de connaître des gens, de faire rentrer dans ta boîte des gens que tu connais. Donc à la fois c'est le meilleur canal, c'est le moins cher entre payer un cabinet de recrutement ou faire venir quelqu'un que tu connais, c'est moins cher. La personne a plus de chances, comme elle connaît quelqu'un dans l'entreprise, de rester, de performer, etc. Mais c'est aussi le plus biaisé par défaut.
Ouais, effectivement. Et du coup, j'entends que effectivement, tu vas avoir tendance, bon, voilà, à recruter des personnes qui te ressemblent. Alors, c'est la question du genre, il y a la question des écoles, etc. J'imagine que ça peut poser plein de problématiques aussi en termes de, bah, de créativité, en termes de recul sur la boîte, parce qu'au final, bah,
Exactement.
on fait un peu d'entre-soi. Du coup, comment concrètement, par exemple, toi, dans ta boîte, tu parlais de process, par exemple, comment on peut se prémunir de ne pas recruter toujours que des gens qui te ressemblent?
Ouais, c'est un super point. Hein. Déjà, ça a été prouvé hein, que les équipes, plus elles sont diverses, plus elles sont performantes. Donc, en fait, il y a des boîtes, je pense vraiment, se mettent à avoir des actions de diversité. Peut-être même, elles n'y croient pas. Pas par conviction, mais par optimisation de performance de boîte. Hein. Donc, ça, c'est déjà un super point. Alors, tu as plusieurs manières de le faire. Il y a un des sujets au recrutement qui est toujours très clivant en France parce qu'on n'aime pas ça. C'est le sujet un peu de, entre guillemets, des quotas, de la discrimination positive ou en tout cas partielle. C'est un point important et c'est un point très clivant en France qu'on déteste ça dans un pays pour l'égalité des chances ou l'égalité dans nos principes fondamentaux. On a l'impression que c'est un principe inégalitaire. Mais il faut garder en tête une chose que, par exemple, si la France est maintenant un des leaders dans la représentation des femmes parmi les conseils d'administration, c'est pas parce que les dirigeants d'entreprise sont levés un jour en disant, tiens, j'ai envie d'avoir plus de femmes à mon conseil d'administration. C'est parce qu'il y a une loi qui est passée les obligeant à avoir un pourcentage de le faire. Voilà. Et donc, sur le recrutement, ce qu'on a fait, et qui, moi, je pensais ça, et j'encourage les autres à faire, c'est que, par exemple, quand on a. Donc, nous, on est deux cofondateurs. Donc, déjà, tout de suite, dès qu'on s'est mis à. On était reparti avec un biais de diversité qui était assez fort, parce que tout de suite, quand on a voulu recruter des gens dans l'équipe de direction, tout de suite, on s'est dit, ben, nous, on veut recruter idéalement féminiser notre comité de direction. Et donc, on a dit, on va recruter pour Head of Marketing, c'est un des premiers rôles de direction que l'on va recruter. J'ai dit, bah, en fait, on ne va sourcer, c'est-à-dire qu'on ne va, et c'est moi qui le faisais à l'époque, hein, je ne vais approcher que des femmes pendant, je sais plus comment c'était à l'époque, 2 mois ou 3 mois, et si ensuite on ne trouve personne, on ouvrira le poste. Mais par défaut, oui, j'ai des impératifs business, mais par défaut, on va se forcer à essayer d'avoir une approche, d'aller chercher et de sourcer des candidats féminins. Et si on avait des gens qui postulaient, par contre, on traitait leur candidature, mais dans l'approche externe, et en fait à l'époque, on n'avait eu aucune candidature viable, c'était que de l'approche de candidate.
Ça m'emmène, il y a un lien dans ma tête, tu vas voir, à la question que j'avais prévu de te poser, parce que je vois que le temps file quand même, à la question de la levée de fonds. Le lien étant que j'entendais justement ce matin, et je me rappelle plus du chiffre que peut-être tu dois connaître beaucoup mieux que moi, sur les différences de levée de fonds entre les hommes et les femmes. C'est pour ça que j'ai fait le lien dans ma tête, où les femmes ont tendance à lever, je sais plus combien, X% de moins que leurs confrères masculins, quoi. Bon, en tout cas, pour revenir à votre levée de fonds, j'ai donc vu que votre dernière levée de fonds s'est élevée à 6 millions 8, quand même.
Ouais.
Bon, il y aurait là aussi plein de questions, mais déjà, ma première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de passer par de la levée de fonds? Pourquoi finalement ne pas avoir choisi un modèle TPE-PME et plutôt avoir opté pour le modèle start-up, quoi?
Bah écoute, c'est une super question, là, parce qu'en fait, au début, c'est pas ce qu'on voulait faire. Au début, on voulait faire une boîte autofinancée, c'est ce qu'on a été au début. Néanmoins, en fait, on a été. En gros, je te mets le contexte. On est en 2021, on se dit on va faire une boîte autofinancée, on a des clients, on a des revenus. Bastien et moi, on peut se payer assez tôt, ce qui est trop bien, tu vois. Et on voit le potentiel de croissance et on se dit tiens, on va recruter 2-3 personnes et on va tenir à 4-5 à faire une boîte autofinancée pendant un moment. On commence à ouvrir les postes. Néanmoins, en fait, on a réalisé que dans le business initial dans lequel on était, dans le benchmark, tu vois, on vendait notre outil qui aidait à accéder aux données de marché, mais on était un mix entre vendre des données et le produit qu'on mettait sur nos données pour exploiter les données plus facilement. Mais on vendait des données. Et on s'est dit, en fait, on est le premier sur le marché, mais qu'est-ce qui se passe si on arrive avec un gros Américain ou quelqu'un qui se lance en Europe en levant 5, 10, 15 millions et qui dit, moi, je vais pas faire un petit benchmark avec 100, 150, 200 boîtes en France, je vais en faire un avec 2000 boîtes en Europe. Et ben, en fait, on est dans un marché où c'est très dur d'exister dans ce cas-là. Parce qu'en fait, si une boîte vient en disant, ah ouais, ben, ouais, il y a figure, ils ont les données de 100 entreprises en France, ben, nous, on se lance et on a 400 entreprises, on en a ou 500 ou 1000 un peu partout en Europe. Toi, en tant qu'entreprise, si tu vas avoir les meilleures données de marché sur tout international, tu vas voir qui? Forcément la plus grosse, tu vois. Dans le business de données, c'est différent des business d'application. Tu vas dire, moi, je prends la plus petite application qui correspond très bien à mes besoins versus une plus grosse, etc. Nous, on n'a pas ça. En fait, il fallait avoir une grosse base de données. Et on s'est dit, si on ne lève pas des fonds, on ne tente pas d'accélérer, on va se retrouver avec un gros acteur qui va arriver, qui va le faire et qui va mettre un bulldozer en place et on va pas réussir à rivaliser, on va mourir. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, donc on s'est dit, en fait, soit on se fait racheter, soit on lève des fonds. Et il n'y a pas de juste milieu, la boîte autofinancée, on n'y croyait pas. Et en fait, on a eu l'opportunité de se faire racheter plusieurs fois, mais on s'est dit non, autant vivre, on a l'opportunité de une seule fois peut-être dans notre vie de faire une boîte un peu start-up, lever des fonds et tenter de vivre cette aventure-là. Donc on a hésité entre les deux, on s'est dit on prend cette option B. Et d'ailleurs, en fait, l'histoire dit que, un, les fameux gros acteurs sont arrivés, un acteur américain est arrivé en Europe qui avait levé 100 millions aux États-Unis dans le même domaine. Deux, un acteur local s'est créé, tu vois, il y a un an, levant 10 millions sans aucun business et en offrant un truc gratuitement pendant le lancement, un truc pas tenable. Et si on n'avait pas levé des fonds, je sais pas comment on pourrait, je pense qu'on serait mort. Et d'ailleurs, en fait, quand on a lancé l'Angleterre, il y avait une petite boîte qui avait une centaine de clients en Angleterre à l'époque où nous on en avait moins, je sais plus, 150 ou un truc comme ça. Et en fait, on les a rachetés. Et on leur a dit, nous, on est à lever des fonds. C'était après notre première levée de fonds. On va venir en Angleterre. On a plus de fonds fous, on va grandir plus vite que vous. On a des données en France, on a des données en Allemagne, on va apprendre des données en Angleterre. Soit vous venez maintenant, soit il y a des chances que d'ici la fin de l'année, en fait, on ait 3, 4 fois plus de clients, dont en France, dont en Allemagne, et en fait, vous n'allez pas pouvoir survivre. Et ils ont dit, OK, bon, bah, tu vois. Et donc, en fait, si on n'avait pas levé des fonds, on serait retrouvé dans leur situation à se faire racheter par un plus gros acteur, au mieux, ou voire à mourir, tout quoi. Donc, voilà pourquoi on a décidé de lever les fonds.
Ok, super intéressant comme réflexion. Du coup, concrètement, vous avez fait combien de levées de fonds pour l'instant?
Deux. On a fait une de 1,7 million en fin 2021 et 6 mois plus tard, 7 mois plus tard, on en a fait une en 2022.
Bah, du coup, il y a une question qui me vient quand même pour arriver un peu sur la fin et sur toi plus que sur Figures, mais c'est le côté de ta montée en compétences, quoi. Parce qu'en fait, je suis en train de calculer que tu me parles de 2020-2021, c'est à 2 ans. Et en fait, dans l'espace de 2 ans, tu deviens entrepreneur, tu deviens CEO, tu deviens associé, tu te retrouves à aller pitcher devant des investisseurs, faire des levées de fonds, gérer des... Mais comment? Du coup, comment
Ouais,
t'as
non, mais
fait ces
c'est.
2 dernières années?
Bah, tu survis, tu s'adaptes. Alors, comme tu dis déjà, c'est le truc le plus compliqué, c'est que pour l'instant, j'ai jamais eu le temps d'être à l'aise avec mon nouveau rôle. Tu vois, je lance ma boîte, au début, je suis tout seul, je commence à peine à être à l'aise. Comme tu dis, Bastien me rejoint. Finalement, on ne vend plus un fichier Excel, on vend un outil tech. Finalement, on doit commencer à recruter. Finalement, je dois lever des fonds. Puis on a fini de lever des fonds, je dois apprendre à faire une acquisition. Puis ensuite, on va à l'international. Comment on fait international? Moi, un des trucs qui m'a. Donc, un, et j'ai pas le temps d'être à l'aise avec un rôle, que mon rôle change. Puis d'un seul coup, je deviens CEO, ok, d'une boîte de 10 à 15. Puis en fait, 6 mois plus tard, on est 20, on est 30, on est 40. Donc je suis pas à l'aise dans mon rôle parce qu'à chaque fois, que je commence à essayer de prendre mes marques, mon rôle change. Et ce dont on a besoin aujourd'hui n'est pas la même chose que dont on avait besoin de moi il y a un an. Il y a un an, on était 10, on n'était même pas 10, je crois. On était 7 ou 8. Et donc là, on est 40, c'est pas du tout le même rôle. Et donc un des trucs qui m'a beaucoup aidé, bah, c'était moi un conseiller. J'ai eu un conseiller qui est arrivé assez tôt dans l'entreprise. Et ensuite, on en a eu un autre qui arrivait côté produit. Mais il y a un surtout qui m'a aidé beaucoup perso, qui nous a beaucoup aidé la boîte, qui était un ex-CEO d'une startup très, très, qui a beaucoup marché. Ce CEO s'appelle Nicolas Bustamante. Il a lancé une boîte qui s'appelle Doctrine. Et en fait, d'avoir cette personne-là, m'étudier avec qui je passais du temps quasiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça a été le truc qui m'a le plus aidé. Parce qu'en fait, lui, il était passé par plein de trucs que j'ai déjà vécu. Tu vois, lui, il était passé par plein de trucs que j'avais pas encore vécu. Lui, c'était le premier à me dire attention. Là, tu vois, ta boîte, elle change de taille. Tu as encore l'impression que c'est à toi de faire les choses, mais c'est pas à toi de faire les choses. Tu as encore l'impression que c'est à toi de parler quand tu es en réunion, c'est à toi de te taire. Parce que tu dois laisser la place aux gens, de prendre leur périmètre, de gagner en compétences, tu dois te taire. Et à la fin de la réunion, s'il y a des actions à décision à prendre que personne n'est capable de prendre, tu les prends, mais sinon tu te tais. Et tu vois, et tu ne fais plus, tu fais faire, parce que sinon tu vas exploser en plein vol et tu vas pas tenir. Et tu vois, s'il n'avait pas été là, même en ayant été là, j'ai fait pas mal de merde. S'il n'avait pas été là, j'aurais explosé en plein vol.
Ouais, oui, ça me fait un peu penser. Je crois que c'est Simon Sinek qui dit "Leaders speak last, and leaders
Exactement.
eat last." Je sais
Hit
pas quoi.
last, exactement. Et ouais, non, c'est ça. Hit last, mais c'est la même chose. En fait, tu laisses faire. Et si je parle d'entrée, si je donne mon point de vue d'entrée, parce que de par ma position, tout le monde va, enfin bref, tout le monde va s'adapter, va vouloir aller dans mon sens. Donc, je dois me taire, je vais laisser les gens prendre leur place, les gens discuter entre eux. Même si l'impression d'avoir la réponse, les laisser arriver à la réponse par eux-mêmes, ça va les faire grandir, ça va les responsabiliser. Enfin bref. Et tout ça, si j'avais pas quelqu'un pour montrer la voie, je me serais planté. Et donc, j'ai fait plein d'erreurs, j'en fais tout le temps. Et je pense que j'en aurais fait 4 fois plus s'il n'avait pas été là.
Ouais, c'est super intéressant et j'aimerais te demander ces erreurs et les enseignements. Alors peut-être par mesure de temps afin que ça reste digeste pour les auditeurs et auditrices. J'ai ma traditionnelle question de fin, mais peut-être qu'on va faire un mix, tu vois. Ma traditionnelle question de fin, c'est quels sont tes 3 conseils pour entreprendre heureux? Peut-être qu'un des conseils, c'est faire des erreurs. Je ne sais pas. Je te laisse répondre comme tu veux. Tes 3 conseils pour entreprendre heureux, slash les enseignements de tes erreurs. Comme ça t'inspire.
Ouais, je vois si à le mettre là-dedans, mais en tout cas, il y a un, moi, il y a un truc, tu vois, si j'avais pas monté, si demain, tu sais, la question, si j'avais pas monté figure, sur quoi je bosserais, moi, un sujet qui me passionne, c'est l'orientation pro, etc. Et je suis de la croyance, et je l'ai vu beaucoup en RH, tu vois, quand tu vois des burn-out à 30, 35, 40 ans, des gens qui réussissent soudainement, qui font une carrière, qui sont pas épanouis, c'est qu'on est historiquement dans une société, un système scolaire qui nous pousse à dire, je veux un plan à 5, 10, 15 ans. Je veux faire si je veux faire ce chemin de carrière, qui ne pose pas assez de questions sur en fait qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je sais faire. Tu vois, il y a une matrice qui est très simple, c'est qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, et prendre du temps de faire du recul, faire un peu des bilans de compétences, faire ce genre d'accompagnement pour s'apprendre sur soi. C'est pour moi, c'est numéro 1. Je pense qu'on peut pas bien créer sa boîte. Je pense que même on peut pas être d'ailleurs un bon manager, même si on peut pas créer sa boîte, si on n'a pas fait un gros travail sur soi, de déconstruction, de recherche, etc. Donc ça serait clairement le numéro 1. Le numéro 2, nous, tu vois, c'est de tester, quoi. En fait, et pas avoir peur. Tu mentionnais, de pas avoir peur de l'échec. Tout le monde s'est planté. Quand tu parles à tout le monde, maintenant c'est de plus en plus accepté, la culture un peu de l'échec, de l'apprentissage, etc. Mais quand même, ça reste une crainte de, et si je me plantais, si je me plantais. Il y a plein de gens. Et ça c'est une chance. Il y a plein de gens, tout, on n'est pas égaux face à ça. Il y a des gens qui, en fait, sont arrivés à un point de leur carrière où, s'ils se plantent, so what, ils retrouveront un emploi demain, tu vois. Et ça, tout le monde, il y en a qui peuvent pas se permettre. Donc, ceux qui peuvent se permettre, mais qui, par immobilisent, par peur, n'y vont pas, je trouve ça trop dommage, quoi. Beaucoup de gens pensent pas. Et en fait, ouais, si je me plante, et alors si tu te plantes, bah, tu retrouves un poste dans une autre boîte, dans un autre truc, peut-être même dans ta même boîte, etc. Donc, pas là, de dédramatiser l'échec, cette culture de l'apprentissage, c'est très américain est convenu, mais il y a plein de gens qui l'ont pas, je pense, intériorisé. Et le point numéro 3, donc c'est pas les, le point numéro 3, c'est de se faire accompagner quand on y va par des gens qui sont passés par là. Moi, encore une fois, c'est ce que m'apporte Nicolas, ce que m'a apporté Nicolas en tant que personne, autant que la boîte, c'est un apport qui est immesurable, immesurable. Et tu me demandes une des erreurs que j'ai fait, bah, sur le prix. Le premier truc qu'il m'a dit quand on a commencé à bosser ensemble, il m'a dit, tu fais n'importe quoi sur le prix. Et il m'a dit, tu vas augmenter, j'ai réfléchi à un nouveau modèle de pricing, tu vas faire ça. Et tu vois, c'était quasiment augmenter les prix par 3. Et je lui dis, mais en fait, Nicolas, je ne peux pas faire ça et tout. Tu vas voir. Tu vas voir. Je suis passé par là, j'ai fait la même connerie que toi et toi, tu vas pas la faire. Vas-y. Et je suis allé en rendez-vous, j'ai commencé à vendre figure 3 fois plus cher et c'est passé. Et en fait, tu vois, et ça devient que lui, il est passé par là. Et en fait, lui, il est passé par là. Il est venu et il m'a permis de corriger une erreur que lui avait mis beaucoup plus de temps à corriger, qui a changé la trajectoire de la boîte. Et donc, ça, c'est un exemple parmi les 15 erreurs que j'ai faites, je peux en parler d'autres, mais celle-là, elle est toujours assez marquante.
Bon, en fait, il faudra qu'on te fasse revenir dans un autre podcast pour parler des tarifs et des échecs et des enseignements des échecs. Je vois quand même que le temps file et que je dois te libérer à l'heure quand même. Si tu, enfin, ouais, si tu pouvais entendre un ou une entrepreneur, entrepreneuse sur ce podcast, tu veux entendre qui?
Écoute, tu as Chloé Amary qui est la fondatrice de Ada Tech School, qui est une école inclusive pour la tech. Déjà, c'est une personne assez fascinante, je trouve, et assez inspirante de par la mission de son entreprise, de par ce qu'elle fait, de par la difficulté d'entreprendre dans le domaine de l'éducation, etc., dans le domaine dans lequel elle est. Et je trouve que moi, j'adorerais entendre, même si j'ai eu la chance d'en savoir un peu plus sur elle. Je pense qu'elle est incroyablement inspirante, c'est une des meilleures personnes, je pense. à écouter. Et en plus, récemment, la semaine dernière, au cas où vous ne l'avez pas vu passer, elle a pris le contrôle, dans une initiative géniale de Take My Seat, prendre ma place, elle a pris le contrôle du compte LinkedIn d'Emmanuel Macron, avec l'accord d'Emmanuel Macron, pour faire un post sur au jour de la Journée internationale des droits des femmes. Et si en plus, elle pouvait nous raconter sa carrière, raconter ce qu'elle vit, pourquoi c'est une entrepreneuse géniale et inspirante qui inspire pas mal de monde, dont moi. Et qu'est-ce qui, au moins, elle a réussi ce coup d'éclat de prendre le contrôle du compte d'Emmanuel Macron, je serais assez preneur.
Ça marche très bien. Alors, on essaiera de la contacter et de la faire venir. Avant-dernière question, est-ce que tu as des actualités à nous partager ou est-ce qu'on peut te retrouver?
On peut me retrouver sur LinkedIn. Alors, je peux être un peu insupportable, mais on fait un mix. J'essaie de faire un mix d'informations intéressantes sur la rémunération, sur les ressources humaines, sur le futur du travail, sur la transparence des salaires, sur l'égalité salariale homme-femme, avec quelques touches d'humour par moment. On essaie de s'amuser un peu chez Figure. On essaie de le faire retranscrire dans quelques vidéos qu'on fait, etc. Donc sur LinkedIn, même ça peut saouler pas mal de monde, j'en suis conscient. Et des actualités en cours. Rien de majeur. On va sortir notre fonctionnalité pour aider les boîtes à créer leur grille de salaire. Je suis incroyablement excité parce que je joue avec comme un axe DRH que je suis. Et donc, je suis super excité. Voilà. Et ça se, et je, donc, j'ai hâte de sortir ça.
Très bien. Eh bien, je remettrai du coup le lien de ton LinkedIn dans la barre de description et le lien de votre site, bien entendu. Dernière question, donc, c'est est-ce que tu as eu l'espace de tout dire? Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on clôture cet épisode?
Non, rien, c'était génial. Enfin, franchement, j'ai passé un très bon moment, j'ai adoré tes questions et je n'ai pas envie d'en rajouter plus. J'ai tendance à trop en dire déjà.
Bah, écoute, moi j'aurais eu encore plein de questions à te poser, donc t'aurais pu en dire plus, mais bon, voilà, on va être raisonnable parce que je suis aussi une pipelette. Donc sinon on va rester là 1 heure et demie, ça va saouler les gens, tu vas être en retard, moi aussi, ça va être une catastrophe. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir
Problème.
répondu à toutes ces questions et bien sûr merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici, je l'espère. Et à très bientôt Virgile, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi, Laura. À très bientôt.